Nous sommes en train de continuer la petite étude sur Jacques. Il y a tellement de belles affaires à apprendre dans toutes les épîtres, parce que tous les enseignements de Paul, de Pierre, de Jean sont toutes bonnes. Jacques, on l'a commencé, puis il y a de la nourriture spirituelle. Je pense qu'on est rendu au 12e message sur Jacques. C'est le 12e message que j'apporte, puis on est encore dans le chapitre 1. Y en a-tu du stock dans ce chapitre-là? Puis on a 5 chapitres à passer à travers. Il n'y a rien qui presse, mais on sort ce que Jacques voulait nous apprendre. Parce que, comme qu'on le sait, c'est une des premières lettres qui a été envoyée à des chrétiens qui étaient dans la dispersion, puis c'est des gens qui souffraient. Ils étaient dans des épreuves incroyables. Puis Jacques lui apprenait comment passer à travers les épreuves. Puis là, ce qu'on est en train de voir ce soir, c'est où on est rendu au chapitre 1, versets 22 à 24. Jacques encourage les chrétiens qui sont dans la dispersion, puis qui sont tous en train de passer des épreuves difficiles. Il lui dit, ça c'est comme un résumé là, que je vous dis là, un chrétien doit mettre en pratique la parole. Même dans les temps difficiles, même quand ça va mal, même quand vous êtes dans les pires moments de votre vie, il est important de ne pas se relâcher. Il faut redoubler d'efforts afin de mettre en pratique la parole de Dieu. Même si ça va mal, même si c'est dur, même si tout le monde est en train de s'écrouler autour de vous, il est important qu'un chrétien continue à mettre en pratique la parole. Faut pas qu'il se dise, oh là, tout va mal, je lâche tout. C'est arrivé qu'il y en a qui ont tout lâché. Mais ceux qui lâchent, ils se rendent pas. L'important, c'est de réaliser, ça se peut que tu vives des moments difficiles. Jésus le dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Les chrétiens sont appelés à des tribulations, puis c'est de même qu'on apprend, c'est de même qu'on grandit, c'est de même qu'on s'accroche au Seigneur. Mais si ça va bien mal, lâche pas. C'est ça que Jacques va dire ce soir. Dans Jacques 1, 22 à 24, il est en train de lui dire, « Mettez en pratique la parole. » Il est en train de parler à des gens qui souffrent. Puis c'est un encouragement, puis en même temps, il y a un enseignement là-dedans. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Car si quelqu'un y écoute la parole puis la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, il s'en va puis oublie aussitôt qui il était. Ça, c'est le passage qu'on va voir ce soir. Il nous dit une chose pratique, il faut mettre en pratique la parole et il nous donne un exemple à travers le miroir, comment est-ce qu'on peut se regarder dans le miroir. Puis si on prend pas les détails pour les écrire, puis prendre des notes, puis étudier, puis approfondir, puis méditer sur l'image qu'on voit, on fait juste la regarder, on se détourne, puis on oublie ce qu'on ressemblait. Puis là, quand il nous dit de mettre en pratique la parole, c'est parce que c'est important qu'un chrétien persévère toute sa vie à la mettre en pratique. Pourquoi doit-on dire à un chrétien de mettre en pratique la parole de Dieu? Pourtant, il a accepté Jésus. Pourquoi qu'il faut l'encourager à la mettre en pratique? Parce que c'est ça qu'il dit dans Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Souvent, il faut dire aux chrétiens que la vie chrétienne, c'est plus que de recevoir la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues à Jésus pour être pardonnées. Puis ils pensent qu'une fois qu'ils ont osé dire « Oui, j'accepte Jésus, je donne ma vie, je demande pardon, là je le sais que je suis pardonné », mais il y en a qui pensent que la vie chrétienne, c'est juste ça. Il fallait les amener à accepter Jésus, puis après ça, ils peuvent s'en retourner puis de continuer la vie qu'ils veulent. Mais c'est pas ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est les amener à Jésus, puis après ça, il y a une continuité. Aller à Jésus, c'est le commencement. Aller à Jésus, c'est d'ouvrir la porte qui nous fait entrer dans le nouveau chemin. Aller à Jésus. Là, après ça, faut que tu demeures avec Jésus. Faut que tu persévères avec Jésus. Faut que tu obéisses à Jésus. Sinon, si tu veux rester rebelle, t'es pareil comme t'étais avant. t'as pas changé. Le verset dans Éphésiens 2, le verset 8 à 10, ça nous dit, car c'est par la grâce qu'on est sauvé, c'est par le moyen de la foi, ça vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça, ce verset-là, on l'a entendu souvent. C'est par la grâce, c'est un cadeau que Dieu nous donne d'être sauvé. Ça vient pas de nous. C'est pas parce qu'on a fait des bonnes actions qu'on est sauvé. C'est pas parce qu'on était meilleur que les autres ou plus religieux qu'on est sauvé. C'est parce qu'on a avoué qu'on n'était pas capable d'être sauvé par nous-mêmes. On a avoué que c'était Jésus qui nous sauve. Là, tu reçois la grâce de Dieu. Puis là, il y en a, sur Internet, souvent, je vois ce verset-là qui est lancé à droite puis à gauche, puis après ça, ils disent au monde, t'as pas besoin, ça vient pas de toi, c'est pas par tes œuvres. Donc, si t'as reçu la grâce, c'est pas par tes œuvres, donc t'en as pas d'œuvres à faire. Puis à chaque fois que quelqu'un dit, il faut faire ça si on veut suivre Jésus, ils vont dire, toi, t'es trop religieux, ou t'es trop légaliste. Non. T'as accepté le pardon, mais après ça, on a des œuvres à faire pour démontrer notre foi.
Amen.
Dans le même verset qu'on est là présentement, il s'est dit, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Là, il y a un point, je suis d'accord qu'il y a un point dans la phrase, mais il ne faut pas oublier d'aller lire l'autre phrase qui apprend. Parce que dans l'autre phrase, ça en dit, car nous sommes son ouvrage, on a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Amen,
amen. Ça veut dire, je ne suis pas sauvé par mes œuvres. C'est vrai. C'est Jésus qui me sauve. On est sauvé par le sang de Jésus. On a reçu Jésus. On l'a pris par la foi. C'est par la foi qu'on prend le cadeau qu'il nous donne d'être pardonné. Mais là, il dit, c'est pas par tes œuvres que tu es sauvé, c'est par ta foi, mais tu es sauvé pour de bonnes œuvres. Que Dieu va préparer, va mettre sur ton chemin, puis il veut que tu les pratiques. Donc, la vie chrétienne, tu es sauvé, pas pour t'en retourner chez vous, tu es sauvé pour obéir, tu es sauvé pour pratiquer, tu es sauvé pour suivre Jésus.
Amen.
Amen. Ça, il faut le dire. C'est pour ça qu'il nous dit, mettez en pratique la parole. C'est pas juste le cadeau que tu es pardonné. Faut aussi que tu rentres dans les œuvres que Dieu a préparées. Paul y expliquait que lui-même, il utilisait la puissance de Dieu pour renverser les faux raisonnements. Dans ce passage-là, ça nous dit, qu'on est en train d'étudier dans Jacques, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Souvent, là, on raisonne la parole. Dieu nous dit, va évangéliser. Puis là, on se dit, ouais, mais ça, c'est, je suis pas appelé à évangéliser, moi. Puis là, on se dit, oh, ça, c'est pour l'autre. Lui, il est bon là-dedans. Tu sais, on raisonne. On raisonne, puis ça nous dit, va parler de ton salut. Va parler de ce que Jésus a fait dans ta vie. Ça nous le dit de le faire. Ça le dit à tous les disciples, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Puis dans l'autre évangile, il a rajouté, faites-en des disciples, puis enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Observer, c'est obéir, mettre en pratique. Fait que Paul, il voyait qu'il y avait un problème dans l'Église. Que les gens se trompaient par des faux raisonnements. Comme Jacques le dit dans ce verset-là, il dit, bornez-vous pas juste à l'écouter, parce que là, on veut la lire, on l'écoute, même au début, ils ne savaient pas lire, la plupart ne savaient pas lire, fait qu'ils écoutaient quelqu'un faire la lecture, fait qu'ils se bornaient à l'écouter. Ils allaient au temple ou ils allaient dans leur réunion entre chrétiens, puis il y a quelqu'un qui faisait la lecture, puis là, ils l'écoutaient. Ça, c'est « Amen » quand on écoute, on peut dire des « Amen » toute la soirée quand on écoute. Mais après ça, est-ce qu'on la met en pratique?
Ça, c'est une autre histoire.
Là, ça nous dit que les gens raisonnent. Là, il essaie de penser, ouais, mais ça, c'est pas pour moi, ouais, mais, puis on se trouve des excuses, des défaites pour pas obéir. Puis Paul, lui, il avait compris que la puissance de Dieu dans l'Église, c'était le message de prédication quand il enseignait les choses. Puis il dit, dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, nous renversons les raisonnements. Fait que les gens qui se faisaient des raisonnements pour pas mettre en pratique, lui dit dans son enseignement, il renversait les raisonnements. Puis toute hauteur, il renversait aussi toute hauteur contre la connaissance de Dieu. Fait qu'il y a des gens dans l'Église qui se pensaient plus élevés que la parole. Il y a des gens qui se pensaient, moi je suis Daniel Poulain, moi je suis pas obligé de mettre ça en pratique. La personne se pensait, elle s'élevait, elle se pensait plus haute que la parole. Puis il y a des pasteurs comme ça, vu qu'ils prêchent. C'est comme les policiers qui sont en devoir, puis ils se pensent au-dessus de la loi, puis ils brûlent un feu rouge sans voie d'urgence. Ils utilisent le droit, puis ils transgressent leur loi. Ben, il se pense au-dessus de la loi. Mais tu peux être chrétien, puis connaître les choses de la parole, puis tu te penses au-dessus, puis tu la mets pas en pratique. Fait que ça, c'est ça qu'il appelle, que Paul, il renversait toute hauteur qui est au-dessus de la connaissance de la parole. Tous ceux qui se pensaient over, puis qui pensaient qu'eux autres, c'était pas pour eux autres, c'est pour les autres. Fait que Paul, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Fait que son enseignement, c'était, nous devons tous se concentrer à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça qui était son enseignement. Puis Jacques, c'est ce qu'il est en train de nous dire aussi dans son passage. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Arrêtez-vous pas juste à écouter et à vous tromper par des faux raisonnements. Premièrement, là, ce qui est important de comprendre, il est primordial de comprendre que l'écoute de la parole, c'est une bénédiction pour notre croissance dans la vie spirituelle. Écouter, là, la Bible là, est à l'écoute, là, que ce soit par des cassettes ou quelqu'un qui la lit ou qu'on la lit nous-mêmes. Apprendre, là, lire, étudier, c'est nécessaire pour qu'on grandisse dans le Seigneur. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas l'écouter. Non, c'est correct de l'écouter. Puis même dans Matthieu 4, le verset 4, ça nous dit, Jésus a dit, il est écrit, l'homme vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis où est-ce qu'elle est, cette parole-là qui sort de la bouche de Dieu? C'est dans la Bible. Fait que c'est dans la Bible qu'on peut apprendre les paroles de Dieu. Puis ça, il dit, tu vivras pas que de pain seulement. Fait que si on est chrétien et on pense que juste me nourrir de pain, c'est suffisant, mais on est dans le champ. On est dans le champ. C'est pas suffisant de juste manger du pain. Faut écouter la parole de Dieu. Faut la lire ou l'écouter, mais il faut en manger. Parce que ça nous rend la vie. Ça nous fait vivre spirituellement. C'est une nourriture spirituelle, la Bible. Il dit, l'homme vit pas de pain, mais il vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Puis là, les prédications aussi, on a plein de versets. C'est pas ce que je vous dis qui est important, c'est les versets qu'est-ce qu'ils disent. Parce que les versets, c'est la parole de Dieu. C'est là-dedans qu'il y a de la puissance. Puis quand que vous entendez des versets pendant une réunion, ça vous nourrit. Vous vous rendez pas compte, mais ça nourrit votre foi. À moins que dans votre raisonnement, moi je veux rien savoir de ça. Moi j'écoute pas ça. Moi je suis pas d'accord avec ça. Si vous vous battez avec les versets que je dis, parce que ça arrive que des gens qui se battent, dans leur raisonnement, ils se trompent, puis ils bloquent les versets dans leur pensée, puis ils les écoutent pas. Parce qu'ils s'entêtent pas contre le gars qui parle en avant, ils s'entêtent contre Dieu. Oui, parce que la parole sort, mais là on est libre de dire oui ou de dire non. Si on dit non, on la bloque, moi je ne veux rien savoir de ça. Ah, moi, jamais je vais faire ça. Parce que ça nous dit, pardonne à ton ennemi, fais-y du... Oh non, il m'a fait du mal, lui, moi, je ne vais pas y pardonner. Bon, mais ça, c'est là qu'on voit quelqu'un qui veut la mettre en pratique. Il entend, Dieu, il l'exhorte par le prédicateur, ou il l'exhorte par, il lit le passage. Non, non, moi, je ne veux pas. Bien, c'est là qu'il y a le raisonnement qui fait, qui bloque. Puis que là, tu fais rien que l'écouter, puis là, tu bloques, puis tu ne la mets pas en pratique. Dans Romains 10, le verset 17, ça nous dit que notre foi, elle vient de ce qu'on entend. Puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fait que quand tu entends la parole de Dieu, ça nourrit ta foi, ça booste ta foi, ça fait grandir ta foi. Tu as besoin de l'entendre. Puis un autre beau passage qui nous parle dans Pierre, 1 Pierre 2:2, ça nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Fait que c'est comme des bébés, on est comme des bébés, on a besoin de désirer le lait spirituel et pur. C'est quoi le lait spirituel et pur? C'est la parole de Dieu, les enseignements de la parole de Dieu. Quand tu te nourris de ça, tu grandis dans le Seigneur. On peut constater deux qualités des gens de Bérée qui étaient face à la parole de Dieu. Les gens de Bérée, c'est Paul est arrivé dans une ville, Bérée, puis il a commencé à prêcher le Christ aux Juifs qui était là, des gens non convertis. Mais il y a deux qualités qu'on voit dans ce verset-là de ces gens-là, dans Actes 17, le verset 10 et 11. Ça nous dit, « Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. » Puis il examinait chaque jour les Écritures pour voir ce que l'on leur disait était exact. Fait qu'il y avait deux grandes qualités, ces gens-là. Premièrement, de recevoir la parole avec empressement. Il était heureux, il était content, puis il avait hâte d'en entendre parler de plus en plus. C'est comme si à chaque réunion que tu fais, il était pressé de se ramasser là, il voulait l'entendre, il avait une soif qui était là. Ça, c'est une qualité qu'on peut avoir, d'avoir soif d'apprendre la parole de Dieu. Ça, il faut l'avoir, cette soif-là. C'est pas normal qu'on soit chrétien puis qu'on n'ait pas soif de la parole. Comme un bébé qui vient au monde, c'est pas normal qu'il ait le goût de boire après le biberon. Si ça fait 6 heures qu'il est au monde puis il n'a pas encore bu une goutte, là, puis qu'il a de la misère à se faire aller à la bouche, il va mourir. Si on ne fait pas quelque chose, on va mourir. La plupart de tous les bébés, la minute que tu mets le biberon, ils ne voient rien. Ils font juste sentir le biberon sur le bord de bouche, puis ils se réveillent, puis ils se mettent à téter. C'est un réflexe. Mais un chrétien qui vient de naître de nouveau, c'est normal qu'il ait soif de la parole, la même affaire. C'est quand tu n'as plus soif, on a un problème. C'est comme si on vit notre journée, puis on n'a pas le goût de manger. On passera une semaine, un mois sans manger. Bon, on est soit qu'on est rendu anorexique ou on a une maladie de dépression, il est temps de faire quelque chose, sinon la personne, mais là, faut la mettre sur le soluté pour la préserver en vie, faut-tu la mettre sur intraveineuse. Mais ça, c'est quand les chrétiens s'occupent d'une personne qui est quasiment morte spirituellement, elle n'a plus de goût de boire, elle n'a plus de goût de prier, elle n'a plus de goût de rien, puis que les chrétiens l'entourent. Puis il lui donne des versets, puis il l'encourage, puis il prie pour lui. C'est comme si tu étais en train de le pluguer sur le sérum, puis d'y aider à survivre. Puis là, jusqu'à temps qu'il reprenne des forces, puis qu'il se remette à louer le Seigneur par lui-même, puis à prier le Seigneur, puis à manger la parole. Mais ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Puis le deuxième point, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Fait que là, il étudiait, il vérifiait, il méditait, il écoutait, mais il voulait être sûr que c'était biblique. Fait qu'il étudiait chez eux. Puis ça, c'est une autre belle qualité qu'un chrétien peut avoir, d'avoir soif, mais de se mettre à étudier pour grandir, parce qu'on a besoin de la parole de Dieu. Si je veux la mettre en pratique, il faut que je la connaisse. pour la connaître, il faut que je la lis et je la médite. Ça va ensemble. C'est comme pour avaler ta bouchée, il faut que tu la chiques. Mais méditer, c'est comme si tu étais en train de chiquer ta bouchée pour arriver à l'avaler comme il faut. Si tu ne la chiques pas, tu risques de t'étouffer avec. Comme que je vous disais, écouter la parole pour l'apprendre, c'est important. Il n'y a rien de plus important dans notre vie que d'apprendre à se nourrir de la parole de Dieu. C'est pour notre survie spirituelle. On prend du temps, en masse de temps, pour aller travailler, pour amasser des sous, pour pouvoir payer notre nourriture physique, pour survivre physiquement. Mais on devra trouver aussi important et même plus de prendre du temps pour se nourrir spirituellement, pour se maintenir en vie spirituellement. Ça donne rien de mourir le ventre plein, puis t'es mort spirituellement. Ça a redonné quoi? T'es mieux, tant qu'à ça, de mourir de faim, puis d'être rempli de la présence de Dieu, puis de mourir avec le Seigneur. Mais là, Dieu ne nous demande pas de se laisser mourir. Il y a quand même l'équilibre. Je vais travailler pour mon pain, mais je vais travailler aussi pour me nourrir spirituellement. Écouter pour apprendre, c'est important. Mais le fait d'obéir à la parole de Dieu, c'est encore plus important. Y a-t-il un ouch à quelque part? Dans Luc 6, 46 à 49, c'est Jésus qui parle. Vous allez voir comment est-ce que le maître, dans ce verset-là, c'est le maître, le sauveur, le seigneur, le juge, celui qui accorde sa grâce d'être pardonné. Il nous accorde la grâce d'être pardonné. On va voir comment est-ce qu'il parle, puis c'est quoi son attente face à ses disciples. Dans Luc 6, 46 à 49, Jésus dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Le Seigneur, le Créateur, il entend plein de monde dire Seigneur, Seigneur. Puis Jésus les voit tous en train de désobéir à ce qu'il a enseigné. Ce Seigneur-là, qui juge tout le monde à la fin et qui connaît toutes nos œuvres, va dire à des personnes: pourquoi vous m'avez appelé Seigneur, puis vous n'avez pas obéi à ce que je vous ai dit? Ces gens-là qui disaient Seigneur, ils lisaient toute la Bible, ils connaissaient toutes les promesses, mais ils ne mettaient pas en pratique. Ils disaient Seigneur, puis ils connaissaient les choses, mais ils ne pratiquaient pas. Qu'est-ce que Jésus va leur enseigner dans ce passage-là? Il dit: je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, il a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Fait que quand tu mets en pratique la parole, tu es en train de creuser, puis creuser profondément pour avoir une bonne fondation bâtie sur du roc. Quant à mon pratique, il dit: une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Alléluia! Parce qu'elle était bien bâtie. Une vie d'une personne bâtie sur, que cette personne-là bâtie sur la parole de Dieu en mettant en pratique. Pas juste en l'écoutant, là. Il dit, c'est ceux qui l'entendent et la mettent en pratique, eux autres, ils ont un solide fondement, puis là, tous les problèmes peuvent arriver dans sa vie, puis il va rester debout. Il peut pas être jeté à terre. Il est solide. Il va être debout quand Jésus va revenir. Puis si on lit la suite, verset 49, « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique, il est semblable à un homme qui bâtit une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison est grande. » Voyez-vous, ça, il dit ça à tout homme qui s'approche de lui. C'est ce qu'il a dit. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Sommes-nous des personnes qui ont été à Jésus?
Oui.
On est tous des personnes qui ont été à Jésus. Donc, ces paroles-là s'adressent à qui?
À nous.
Puis là, il nous donne deux exemples. Les deux écoutaient. Mais il y en a un qui mettait en pratique, puis l'autre ne mettait pas en pratique. Puis ça faisait toute la différence. C'est pas l'écoute qui sauve. Si tu veux être debout quand Jésus va venir te chercher, mets-le en pratique. Là, les problèmes vont arriver dans ta vie. C'est sûr que tu vas en avoir des problèmes dans ta vie. Y a-t-il un chrétien qui n'a pas eu de problème dans sa vie?
On en
a tous. On va en avoir peut-être des plus pires que ça encore, des problèmes. Mais ceux qui vont être bâtis sur leur heure, qui ont appris à mettre en pratique, ils vont rester debout, ils vont persévérer, puis ils vont être debout quand Jésus va venir chercher. Les autres, ça dit que la maison est tombée, puis sa ruine est grande. Ils ne sont pas sauvés. Puis c'est à tout du monde qui ont dit « Seigneur, Seigneur! » Jésus leur a dit « Pourquoi vous me dites « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je vous dis? » Voyez-vous que la pratique de la parole est plus importante que de l'entendre. L'entendre la parole, c'est très important. On grandit avec la parole. On grandit dans notre foi. Mais si on la met en pratique, ça nous amène jusqu'à la fin. Puis l'exemple que Jacques utilise, c'est pour ça qu'on est en train d'étudier, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des raisonnements. On vient d'apprendre que c'est important de la mettre en pratique. Mais là, on voit la suite. Ça nous dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, il s'en va, puis oublie aussitôt qui il était. On voit que si tu t'appliques pas ce que tu apprends, c'est pas long que tu les oublies et tu les mets pas en pratique. C'est comme si tu aurais juste un flash par le miroir, mais tu es tout de suite distrait par d'autres choses, puis tu repenses plus à ce que tu as vu.
Partager quelque chose?
C'est là qu'on voit la puissance de Dieu, puis il nous parle. Il nous parle. Tu rouvres la Bible, il y a de quoi qui te frappe. Tu entends des prédications, il y a de quoi qui fera. Dieu parle tout le temps. Il s'agit d'être à l'écoute. Puis, faut faire attention qu'on ne ferme pas nos yeux puis nos oreilles à sa voix. Là, tu aurais pu dire, « Ah, oh, ben moi, je suis tanné, j'arrache cette page-là, je ne veux pas avoir. » Oui, mais il y en a des chrétiens qui ont tellement arraché de pages qu'il reste juste le couvert. Ils sont tellement contre chaque idée. Ils arrachent les pages puis il reste juste le couvert de la Bible. Mais ce qu'il faut pas faire, c'est pas de l'arracher. Seigneur, tu me parles par ce verset-là. Là, dans ce passage-là, dans ce genre qui nous prend l'exemple du miroir, il y a de quoi aller chercher comme instruction. La parole, là, la parole de Dieu, c'est comme un miroir qui nous démontre deux choses. Quand on écoute la parole, on lit la parole, il y a deux choses qu'on voit qu'on voit des versets qui parlent de miroir face. Une révélation dans ça. La première, on voit comment est-ce qu'on est vraiment devant Dieu. Quand tu regardes la parole, c'est comme un miroir, puis là, tu es en train de voir tes défauts. Tu vois tes péchés. Dieu, il nous parle par la parole, puis tu lis la Bible, là, puis là, ça te montre des affaires des fois que tu n'aimes pas voir, parce que Dieu te parle. Il te montre, ah ben là, faut que tu pardonnes, là. Puis là, ça revient souvent que tu lis, puis il y a un passage qui dit « faut que tu pardonnes ». Là, Dieu, c'est comme si Dieu, il est pas qu'il s'entête, mais il persévère lui aussi à essayer de nous convaincre à lâcher le morceau, puis qu'on obéisse, puis qu'on la mette en pratique afin d'être délivré, guéri, puis que l'autre aussi soit guéri, délivré, puis que toute la situation soit réparée. Dieu, il travaille pas juste pour moi, il travaille pour l'autre aussi. Si je veux pas y pardonner, puis je garde la rancune, puis je le boude, puis j'y donne des mauvais mots, mais là, il y a un mal qui persiste, puis lui, il veut guérir ça. Puis là, c'est là qu'il nous parle. Puis là, il nous le montre. Là, on lit la Bible, puis il nous le montre. On se voit. On voit notre péché. Puis là, on continue à résister, ou on accepte de l'obéir. Parce que Dieu persévère, ça dure longtemps, puis Seigneur continue à persévérer, à essayer de nous montrer les affaires, même si on n'écoute pas, il faut que Dieu continue. C'est une bénédiction pour nous s'il ne nous laisse pas aller en nous livrant nous-mêmes à notre péché. C'est une bénédiction qu'il continue à persévérer pour nous convaincre, parce qu'on va finir par obéir. On voit que quand il dit dans comment est-ce que nous sommes vraiment, on se voit dans le miroir, on voit comment est-ce que nous sommes. Hein? Dans Jacques 1, 23-24, il dit quelqu'un, il écoute la parole puis il la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, puis après de s'être regardé, il s'en va puis il oublie qui qu'il était. Mais quand on étudie la parole, on se voit tel qu'on est quand on se regarde dans le miroir. Mais si on ne la met pas en pratique pour régler le problème, si on ne dit pas au Seigneur, je vais le faire, on se revient de bord, on oublie, puis on reste qu'est-ce qu'on était dans nos problèmes, dans nos difficultés. Puis une autre affaire qu'on voit dans un miroir, on voit l'image de Jésus. On voit l'image de Jésus dans le miroir. Quand tu regardes la Bible, tu ne vois pas juste tes défauts, tu vois aussi comment est-ce que tu peux arriver à être pour devenir comme le maître. Puis ça nous dit qu'on voit l'image de Jésus, puis le Saint-Esprit veut nous amener à devenir comme Jésus. C'est extraordinaire. Dans 2 Corinthiens 3, 18, ça nous dit, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Ça veut dire que quand tu lis la Bible, quand tu écoutes la Bible, tu regardes la Bible, tu es en train de voir Jésus et tu vois aussi le but à atteindre, de devenir comme Jésus dans toute sa splendeur. Puis il dit, quand tu es en train de l'examiner, laisse le Seigneur agir en toi, puis il va te transformer, puis il va t'amener. Le Saint-Esprit va t'amener à ressembler de plus en plus à Jésus. S'il nous montre notre défaut, c'est pour nous amener à être comme Jésus. Voyez-vous que la Bible est comme un miroir. Tu te vois dans tes défauts, mais tu vois aussi ce que tu vas devenir, puis où ce que tu t'en vas aussi. Ça va être extraordinaire. Amen.
Amen.
Fait que le Seigneur vous bénisse tous, puis mettez en pratique la parole.
Amen.
Amen.